qu'à faire un tour de table.
Voilà. Là, on a parlé des relations franco-allemandes via l'Union européenne, c'est-à-dire via les États. Quid au niveau local du transfrontalier notamment? Et est-ce qu'on retrouve les mêmes tensions ou améliorations au niveau local ou qu'on a au niveau national? Ou est-ce que finalement ce sont des laboratoires où tout fonctionne finalement mieux, de manière plus fluide et plus simple, et que les considérations Union européenne, nationales sont effacées pour des intérêts autour de projets qui finalement fédère nettement plus facilement?
Oui. Vous avez dit que c'était probablement dans l'Europe de la défense qu'il y avait le plus de marge de progrès. Alors, on part de loin avec l'échec il y a 50 ans de la communauté européenne de défense, et puis surtout on part de très loin aujourd'hui avec 17 modèles de tanks et 20 modèles d'aéronefs. En Europe, avec un échec, une catastrophe industrielle, celle de la 400M, on part avec une SVR qui est complètement déliquescente. Et donc la question, c'est, est-ce que vous pensez que l'opinion publique allemande est véritablement prête à renforcer la défense et son intervention constitutionnel à l'extérieur, avec probablement l'affaiblissement de la relation franco-britannique en matière de défense. Est-ce que vous y croyez?
Je vais répondre à cette question avant de
poursuivre comme vous voulez. Vous gérez.
Je vais répondre avant d'oublier ce que vous m'avez demandé. Alors, sur le paysage politique en Allemagne, le SPD, il a un problème stratégique, c'est qu'ils sont à la fois membres du gouvernement Merkel et en même temps, ils essayent de la remplacer. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas trop bouger. On attend leur programme pour la fin du mois. Il sera présenté, la version finale sera présentée le 25 juin. On verra ce que ça donne. Mais ça fait un certain moment qu'il y a ce débat sur les investissements avec des ponts d'autoroute qui sont fermés parce qu'ils sont dans un mauvais état, le financement des écoles, etc. Donc, j'ai pas de chiffres macroéconomiques là-dessus, mais voilà, dans le ressenti, c'est un vrai débat, c'est un vrai problème, mais il y a des exemples qui font qu'on le ressent. Et vous avez un peu cette vision des sociodémocrates qui disent voilà, il faut investir contre Schäuble qui est là avec sa ménagère Schwab, il ne faut surtout pas dépenser de l'argent. Maintenant qu'on a un excédent budgétaire, il faut le garder pour plus tard quand tout sera horrible. Donc voilà un peu les deux pôles. Vous avez les verts, mais qui sont en baisse, qui dégringolent, qui sont plutôt côté sociodémocrate. Vous avez les libéraux là font une remontée qui sont plus du côté chrétien-démocrate. Donc voilà pour ces différences. Et puis bien sûr, si vous suivez un peu ce qui se passe en Allemagne, il y a aussi l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, mais en ce moment ils sont à moins de 10% dans les sondages. Quoi qu'il arrive, ils n'auront rien à voir avec le gouvernement. Donc, voilà, c'est un phénomène qu'il faut regarder de près. Mais sinon, c'est pas important, si j'ose dire, d'un point de vue de politique concrète. Et après, en dehors de cette question zone euro investissement, j'ai vraiment du mal à voir les différences entre le SPD et le CDU. Parce que tous les deux sont... les grands sujets actuels en Allemagne, ce sont surtout la crise des réfugiés. Là, ils sont vraiment sur la même ligne. Tout le monde soutient la chancelière. Ils ne peuvent pas faire autrement de toute manière. Et donc voilà. Et puis de toute façon, tout ça, ce sont vraiment des forces pro-européennes fondamentales. Donc a priori, là, il n'y aura vraiment pas trop de différence. Et là, tous les sondages le montrent qu'en gros, Merkel va gagner de toute manière. Et la grande question, c'est est-ce que le SPD sera suffisamment fort de nouveau pour pouvoir être le petit partenaire de la coalition, ou est-ce que ça peut même aller tellement mal pour le SPD qu'en fait Merkel se retrouve à gouverner avec les libéraux. Donc, enfin, voilà, on est à quelques mois des élections, mais en ce moment, c'est la question est là. Donc en gros, ça continuera comme après. Ensuite, les deux... Disons, la coopération au niveau local et régional, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pragmatique que ces grandes questions ne se ressentent pas trop, parce que de toute façon, on a des problèmes concrets à gérer. Connaissant moi-même relativement bien la grande région Sarre-Lorlux, pour avoir passé mon bac à Sarrebruck, j'ai vraiment l'impression que c'est du concret. On travaille bien ensemble, les deux côtés ont à gagner. Alors, c'est plus dans les projets d'étudiants, par exemple, que je ressens on a eu des bagarres macroéconomiques, où je me souviens d'une université d'été franco-germano-polonaise, où en gros, il y avait le camp écolo-allemand, les nucléaires, les fans du nucléaire français et les fans du charbon polonais. Donc, vraiment, quand ça avait bu un peu, ça a mal fini. Donc, à ce niveau-là, oui, ça joue un rôle, mais sinon, j'ai l'impression que dès que ça devient des questions concrètes, locales, ça ne pose plus aucun problème.
Et du coup, est-ce que le reproche qu'on fait à l'Europe d'être trop éloignée, justement, du terrain, de l'habitant, on voit que ça peut fonctionner?
Je ne sais pas si les gens, en fait, associent ce qui marche à l'Europe, c'est plutôt ça le problème. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour, on ne paye plus rien pour l'itinérance. Je pense qu'on va vite s'habituer, puis ça sera plus rien de particulier. Puis pareil, tous ces programmes Erasmus, Erasmus+, etc. J'ai souvent, comme les programmes franco-allemands sont souvent en parallèle avec l'Europe, je ne sais pas si les gens ont vraiment tendance à comprendre la dimension européenne dans tout ça. Sinon, la question de la défense, mais en fait, comment dire, le problème avec toutes ces questions de défense, c'est qu'en fait, on est complètement dans une optique de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on peut faire ensemble, et on laisse, à mon goût en tout cas, de côté tout ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut d'abord faire une analyse stratégique et après, en gros, c'est de ça que normalement devrait découler le niveau d'ambition et tout ce qu'on veut faire. Et j'ai l'impression que dans toutes ces discussions en franco-allemand, on part plutôt de l'autre sens. Voilà encore un truc technique qu'on pourrait inventer, voilà un truc sur lequel on peut se mettre d'accord, mais les grandes nécessités stratégiques sont laissées de côté. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui sont en train de bouger tout doucement en Allemagne, grâce à M. Poutine et grâce à M. Trump, qui ont fait comprendre aux Allemands que finalement tout ça a été quand même du sérieux et pas juste un petit luxe qu'on pouvait se permettre, mais en gros, c'est pas trop nécessaire. Mais il reste quand même une méfiance assez profonde à l'égard des Français. Il y a eu des exemples où ça s'est plutôt mal passé par le passé, il faut le dire aussi, où Bernard était parti 24 heures avant le départ des Français au Mali, ou pour l'opération au Congo, où les Allemands se sentent entraînés dans une aventure africaine à la française dont on ne voulait pas. Après, il y a toujours les deux versions, bien sûr, à contraster. Et ça reste difficile, mais j'ai quand même l'impression que l'opinion allemande est en train de bouger un tout petit peu. Par exemple, les gens sont plutôt favorables à tous ces efforts que fait l'Allemagne en Lituanie dans la réassurance des alliés de l'Est face à la Russie. Mais ça m'amène à peut-être dernière remarque là-dessus. Ça m'amène aussi à cette problématique des priorités qui sont tout simplement différentes en termes géographiques entre la France et l'Allemagne. La France, enfin, ça fait un peu bateau, mais la France a tendance à regarder vers le sud, l'Allemagne vers l'est, et c'est vrai. Mais aussi, pour la France, c'est la lutte contre le terrorisme qui est vraiment la tâche la plus importante, alors que les Allemands, bon, le terrorisme, ils perçoivent ça comme un problème, mais c'est plus un problème justice, sociale, etc., qui se règlent à l'intérieur. Donc là, les approches ne sont pas forcément compatibles. Et puis, dernière phrase sur la Constitution, il y a eu une commission qui était censée analyser les possibilités de faire évoluer la Constitution allemande au vu de l'intégration croissante de l'armée allemande dans la coopération internationale, et en gros, ça n'a rien donné. Rien donné, c'est pas la version officielle. La version officielle, c'est de dire qu'on a confirmé le rôle important du Parlement dans le processus décisionnel.
Moi, j'ai une double question sur le Brexit. On voit aujourd'hui que les positions de la France et de l'Allemagne ont l'air assez alignées sur le Brexit. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Et puis, est-ce que le Brexit aura des effets sur les coopérations en matière de défense? Intuitivement, je dirais plutôt oui, mais lesquelles selon vous?
Question très courte. Le couple franco-allemand suscite-t-il des jalousies parmi les autres partenaires européens?
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ordre de la défense?
Non. Juste, est-ce qu'il y a une velléité? Enfin, il y avait à une époque, dans les années, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, il y avait une organisation internationale qui s'appelait l'UEO, Union de l'Europe occidentale, voilà, qui était un peu l'Europe de défense, même élargie, puisqu'il me semble qu'il y avait la Turquie dedans, etc. Est-ce qu'il y a une volonté de revenir à ce genre de choses, ou est-ce qu'on est plutôt strictement sur du bilatéral un peu?
Et
Est-ce
qu'il y a une domaine où vous n'avez pas parlé, si on reste dans le champ des visions contrastées qui me semble intéressant, sur lesquelles j'aurais bien voulu vous entendre, c'est le domaine de l'énergie. Parce qu'il a aussi des implications stratégiques tout à fait cruciales. Et on voit la France et l'Allemagne prendre des directions tout à fait différentes. Et on parle d'Europe de la défense, mais on parle aussi d'Europe de l'énergie. Et j'aurais bien voulu vous entendre là-dessus.
Sandra, une question. Jusqu'où les accords en place, les accords existants pour l'Europe, permettent-ils d'agir sans repasser par des consultations démocratiques? Ce qui est aussi peut-être jusqu'où peut-on agir entre États sans repasser par de nouveaux accords qui sont pour le coup apparemment impossibles à mettre en œuvre aujourd'hui? Si on met en place des consultations sur de nouveaux accords, on est reparti pour un cycle et les risques d'échec sont importants. Donc jusqu'où a-t-on une marge de manœuvre avec l'existant?
En général
ou sur les points particuliers, c'est une question que je me pose sur la manière dont on peut repenser l'Europe avec un cadre institutionnel qui semble compliqué. Alors, peut-être sur les exemples cités, ça serait
clair. C'est une énorme question. Enfin, vous pouvez peut-être l'aborder, mais je propose qu'on l'avance. Je pense qu'on va vraiment l'aborder cet après-midi. C'est vraiment toute la question de la révision des traités ou pas la révision des traités.
Alors, le Brexit, je partage votre avis que les positions françaises et allemandes sont relativement alignées là-dessus. Après, les effets sur la coopération de défense, j'ai un doute, honnêtement. Parce que là, en gros, la coopération de défense, à mon avis, il faut la penser des deux côtés. Premièrement, de voir ce qu'on peut faire ensemble, mais aussi de voir ce qu'il faut faire. Et cette dimension de ce qu'il faut faire, pour l'instant, on la laisse plutôt de côté. Alors ça s'est amélioré par rapport à quelques années, mais l'analyse de ce qu'il faut faire, en gros de quoi il faut avoir peur et qu'est-ce qu'il nous faut comme moyen pour pouvoir réagir à ce dont il faut avoir peur, ça c'est un débat qu'on ne mène pas vraiment. Et si on menait, je pense qu'on tomberait sur des désaccords assez importants entre la France et l'Allemagne, au-delà de « il faut assurer la sécurité et la prospérité de l'Europe et de ses voisins et de ses amis », etc. C'est-à-dire, le point commun, c'est ce que vous avez dans les documents officiels, mais enfin, vous ne me citerez pas, mais c'est plutôt du blabla. Enfin, c'est pas du tout, genre... Bon, quelle priorité, comment faire dans les détails. Et là, j'ai l'impression que et la France et l'Allemagne, en fait, ont plutôt... on va avoir des dialogues, on va en discuter, etc. Mais qu'il n'y a pas trop de convergence, sauf s'il y a un choc externe avec une nouvelle crise de l'envergure, je ne sais pas, un vrai problème avec la Russie dans les Pays-Bas, par exemple, ça pourrait changer les choses. Mais vous l'avez vu, il y a eu l'attentat terroriste à Berlin en décembre dernier. Alors, tous les commentateurs français se sont affolés. Je ne sais pas combien de commentaires j'ai vu qui disent, voilà, lourdes conséquences, ils vont enfin changer d'avis, ils vont faire la guerre en Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé 6 mois après? Rien. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que ça montre aussi qu'il y a une résilience à ce genre d'événement, qu'on analyse de façon assez distancée les dispositifs en place et qu'on dit, voilà, en fait, c'est suffisant. Donc voilà, c'est pas forcément que les Allemands ont toujours tort dans ce domaine, mais en tout cas, les réactions, bon, sachant aussi que l'envergure des attentats en France et en Allemagne n'était pas du tout la même, je le sais très bien, mais aussi de voir cette différence de réaction, ça permet aussi de voir ces différences de culture stratégique qui, à mon avis, rendront la coopération plus poussée difficile. Alors, des jalousies par rapport à ce couple franco-allemand, oui, il y en a plein. Et pas forcément des jalousies, mais aussi des craintes que Berlin et Paris décident, en gros, pour tout le monde, et puis les autres n'ont qu'à suivre. J'ai fait ma thèse en Suède, quand je suis arrivée là-bas, à ma très grande surprise, j'ai appris qu'il est parfaitement normal dans les médias suédois de parler des grandes puissances, on va dire la France et l'Allemagne. C'est
incroyable. C'est attendu.
Bon, en France aussi, il y a des gens qui considèrent la France une grande puissance, en Allemagne, c'est très très rare. Mais voilà, donc cette idée, les petits contre les grands, et en plus quand les grands se mettent ensemble, ça pose problème, ça existe. Pareil, les Polonais n'aiment pas trop qu'on discute de l'avenir de la zone euro sans eux, c'est-à-dire en franco-allemand. Donc voilà, c'est compliqué. Après, l'Union de l'Europe occidentale, en fait, elle a été transformée en politique de sécurité et de défense commune, donc voilà, elle a été intégrée dans tout ça. Mais je pense une vraie volonté de... Déjà, il faut définir ce que c'est que l'Europe de la défense, la vraie, parce que les définitions sont assez différentes dans différents pays. Et puis il faut voir aussi quel rôle pour l'OTAN dans tout ça. Sachant que ce n'est pas seulement une question de est-ce qu'on est pour ou contre les Américains, parce qu'un jour, les Américains risquent de dire, en gros, la défense européenne... On en a marre de financer 75%, donc occupez-vous vous-même de votre sécurité. Mais voilà, en fait, le problème dans tout ça, c'est aussi le grand flou des notions et des objectifs politiques dans les différentes capitales. Alors après, juste quelques mots sur l'énergie, ce qui n'est pas vraiment mon domaine de spécialité, mais oui, bien sûr, il y a de grandes différences. Qui se creuse. Alors les Allemands avaient beaucoup misé sur Hollande, qui voulait aussi réduire la part du nucléaire. Là, avec Macron, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas entendu de commentaires sur la politique énergétique de Macron. Mais la transition énergétique en Allemagne, selon les experts, se passe pas très bien. Beaucoup qui disent que en fait c'est une occasion manquée. Ça pourrait marcher, mais pas de la manière dont c'est mis en œuvre, qui a été mis en œuvre beaucoup trop rapidement. Et puis bon, aussi sur le plan politique, cette problématique de l'Allemagne qui faisait tout simplement cavalier seul, décision comme ça après Fukushima de sortir du nucléaire. Et puis c'est peut-être un dossier un peu petit, mais que personnellement je suis avec beaucoup d'attention, parce que je trouve ça intéressant, parce que ça en dit aussi beaucoup sur la vision stratégique de l'Allemagne. C'est Nord Stream 2, le gazéoduc direct entre la Russie et l'Allemagne, qu'en gros le gouvernement allemand vous vend comme un projet entièrement commercial, sans aucune dimension géopolitique, ce qui à mon avis n'est tout simplement pas vrai. Et qui risque de bouleverser l'approvisionnement en énergie de de l'Union européenne, parce que l'argument des Allemands, c'est de dire bah, tout arrive chez nous, donc en gros, nous, on pourra redistribuer, c'est bon, vous êtes tous à l'abri de chantage russe, enfin, disons, c'est plus sûr pour vous si ça vient directement en Allemagne que si ça passe par l'Ukraine. Mais en même temps, ça fait de la Russie un quasi-monopoliste de l'approvisionnement en gaz de l'Europe, surtout la partie est. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur Nord Stream 2.
Une dernière question.
Alors, on a une minute en fait. On a donc 10 secondes pour la question et 50 pour la réponse.
Une dernière question très bien pour Xavier Auclair, EDF. À vous écouter, j'ai une question. À quoi sert le comité politique et de sécurité? Parce que toutes les missions dont vous dites qu'elles ne sont pas assurées relèvent de sa compétence. Or, on immobilise 28 ambassadeurs et leurs équipes, justement pour faire ce que vous dites qui n'est pas fait.
Alors, je me suis peut-être un peu mal exprimée. Je ne dis pas que rien n'est fait, parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Il y a des choses qui se font. Il y a quasiment 40 opérations, missions, etc., par le passé ou en cours. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on n'a jamais défini, comment dire, le benchmark, si vous voulez. Genre, l'Europe de la défense, c'est quoi? C'est censé faire quoi? Et par rapport à ça, j'ai bien peur que les approches plutôt techniques et de mise en place de commissions, etc., en fait, ne répondent pas forcément aux besoins stratégiques de l'Europe. Mais en même temps, de surmonter ce problème-là est bien trop compliqué dans les conditions actuelles. Ce qui fait qu'au moins, pour commencer quelque part, à mon avis, il faut un vrai dialogue stratégique franco-allemand. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Pas tout à fait.